Bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs, en septembre 2017, lors de la journée organisée à l'École pratique des hautes études en hommage à la personnalité scientifique de Pierre Montet, j'avais eu l'occasion de présenter quelques documents d'archives, relatifs au site de Tanis, retrouvés auprès des familles des anciens membres, amis ou collègues de la mission Montet. Cette recherche documentaire, que Jean Yoyotte avait débutée et encouragée dès la création de la mission française des fouilles de Tanis en 1964, s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du projet ANTA, Archives numériques de Tanis, initié en 2014 par François Leclerc. Elle s'est poursuivie activement en 2018, essentiellement autour du personnage de Jean-Louis Fougerousse, qui fut donc l'architecte de la mission de la mission Montet entre 1931 et 1939, et dont le Centre Golenischeff possède un important fonds d'archives qui avait été remis à Jean Yoyotte par l'une des filles de l'architecte, Madame Geneviève Caron-Fougerousse, au milieu des années 70. Toutefois, plusieurs campagnes de fouilles ou certains secteurs étudiés par Jean-Louis Fougerousse faisaient défaut dans ce dépôt et laissaient entrevoir la possibilité que d'autres documents soient encore conservés par ses descendants. Alors, une enquête préliminaire m'a permis de retrouver les noms de ces 6 petits-enfants et d'entrer ensuite en contact avec 4 d'entre eux, qui sont tous présents ce soir, je les en remercie, qui m'ont réservé le meilleur accueil et qui ont accepté de m'aider dans ces recherches. Donc, c'est pour moi un agréable devoir de remercier mesdames Marie-Paul Fougerousse et Anne Staritsky, ainsi que messieurs Cyril Staritsky et Jean-Christophe Caron, petits-enfants de Jean-Louis Fougerousse, de m'avoir permis d'accéder aux archives de leur grand-père et de les numériser afin qu'une copie digitale en soit déposée au Centre Golenischeff, où elle viendra rejoindre et compléter très utilement les données déjà présentes au sein des archives de la mission Montet. Et je remercie également M. Laurent Coulon, président de la Société française d'égyptologie, de m'avoir invité à en présenter quelques extraits devant cette prestigieuse assemblée. Si le nom de Jean-Louis Fougerousse est familier pour toute personne s'intéressant au site de Tanis et à la mission Montet en particulier, il reste néanmoins largement méconnu aujourd'hui auprès du public amateur d'égyptologie et parfois des égyptologues eux-mêmes. Comme plusieurs de ses collègues architectes, Jean-Louis Fougerousse a été un auxiliaire indispensable d'une importante mission archéologique, mais il n'a publié que très peu d'articles signés de son seul nom, 3 pour être précis, dans la revue Kémy. Et pourtant, les nombreux plans qu'il a levés sur le site de Tanis ont servi maintes fois d'illustration aux études et ouvrages de Pierre Montet. Et plusieurs chapitres insérés dans les publications de Pierre Montet sont dus à la plume de Jean-Louis Fougerousse. Alors, nous savions, notamment grâce à un courrier cité dans les Lettres de Tanis, publié en 1998, que Jean-Louis Fougerousse avait été recommandé à Pierre Montet par son ami et ancien collègue des fouilles de Byblos, le célèbre orientaliste René Dussault, conservateur au musée du Louvre et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à une époque où Pierre Montet venait d'ouvrir son nouveau chantier de fouilles à Tanis et où il cherchait un architecte pour remplacer Clément Robichon, qui avait été mise à sa disposition par l'IFAO, mais seulement pour la campagne de 1930. Or, en cette même année 1930, Jean-Louis Fougerousse participait pour la première fois à une mission archéologique en Syrie, où il avait accompagné le comte Robert Duménil Dubuisson pour expérimenter, entre autres, la reconnaissance de sites antiques au moyen d'une méthode qui était encore peu répandue dans le domaine de l'archéologie donc à cette époque, la photographie aérienne, que Fougerousse connaissait particulièrement bien pour l'avoir longuement pratiquée durant la Première Guerre mondiale. où il avait dirigé la première section de photographie aérienne. Et c'est ainsi que, toujours la même année, en 1930, René Dussault, sans doute impressionné par les résultats de ce survey, va publier une impressionnante vue aérienne réalisée par Jean-Louis Fougerous du tel de Ran Cheiroun, donc à 80 km au nord de Homs, et qu'il va recommander à Pierre Montet de l'engager dans la nouvelle équipe qu'il souhaite constituer à Tanis. Donc ceci pour rappeler les circonstances qui ont permis à Jean-Louis Fougerous de rejoindre en 1931 Georges Goyon, l'abbé Paul Bucher, Lucien Éperon également, qui n'est pas sur cette photo, au sein de la mission Montet. Les archives de Jean-Louis Fougerous, actuellement présentes au centre Golenichev, se composent, alors, en plus des dizaines de plans ou dessins archéologiques ou architecturaux réalisés durant les 9 campagnes que Fougerous a passées à Tanis, elles se composent donc de 4 albums de tirages photographiques relatifs aux campagnes de 1931-32, 1933-35 et 36. Également 3 liasses de photocopies correspondantes à ces journaux de fouilles pour les campagnes de 1931, 1932 et partiellement de 1938. Ce sont des photocopies, nous cherchons désespérément les originaux. Également 2 aquarelles réalisées en 1931, auxquelles s'ajoute une lettre adressée à Pierre Montet en 1939 et plus curieusement, les plans d'un immeuble parisien édifié par Jean-Louis Fougerous en 1913 pour sa belle-mère et qui ont sans doute été glissés par erreur dans le lot remis à Jean Yoyotte par Madame Caron. En tout cas, si vous passez par la rue de la Faisanderie dans le 16e arrondissement, arrêtez-vous au numéro 126 où une plaque commémore le nom de l'architecte. Donc nous constatons que certaines campagnes ou certains types de documents ne sont pas ou très peu représentés dans les archives actuellement présentes au centre Golenichev. Donc nous allons voir comment et dans quelle proportion les documents récemment retrouvés viennent les compléter. Ce sont tout d'abord 3 nouveaux albums photographiques et quelques tirages isolés qui conservent des images prises à Tanis durant les campagnes de 1931 à 1939. Toutes les campagnes sont représentées. Il n'y a que la campagne de 1934 qui n'est pas beaucoup présente, mais une carte postale confectionnée par Jean-Louis Fougerous est datée du 28 avril 1934, mise en vente publique en mars 2015, vient compléter partiellement cette documentation. Cela totalise un ensemble de 93 nouveaux clichés, auxquels s'ajoutent 6 négatifs sur gélatine souple. Alors, certains de ces clichés sont déjà présents dans les albums de la mission Montet conservés au centre Golenichev, en meilleur ou en moins bon état selon les cas, mais la plupart sont totalement inédits. Alors, ils nous montrent, je vous ai mis quelques extraits, ils nous montrent par exemple des vues générales du village de San et de ses environs, parfois notées au verso, on voit que les choses ont bien changé. Quelques clichés souvenirs également, comme la toute première arrivée à Tanis de Jean-Louis Fougerous le 18 février 1931, en compagnie de l'abbé Bucher, de Pierre et Théodora Montet et leurs 2 fillettes. Ou encore la maison fraîchement construite des fouilleurs ou l'automobile de la mission qui visiblement avait régulièrement des problèmes. Nous avons également dans ces albums quelques images montrant des vues plus détaillées de certains secteurs de fouilles. Alors c'est très important également. Ainsi que, donc là nous en avons, je vous en ai mis 2 en exemple en vue générale, mais nous avons des vues plus rapprochées, notamment pour ce qui concerne une série de fours, un ensemble de fours découverts en 1938 près de l'angle sud-ouest de l'enceinte de Psousenès et dont l'étude et la publication avaient été confiées à Jean-Louis Fougerous. D'ailleurs, on les appelle toujours aujourd'hui les fours Fougerous. Ces dernières images avaient été glissées dans un volumineux dossier qui nous fournit d'importantes informations sur les opérations menées lors de la fouille de ce secteur et sur celles qui l'ont suivi jusqu'à la publication finale de l'article en 1946. Alors nous allons trouver en effet dans ce dossier, donc on reconnaît l'écriture de Jean-Louis Fougerousse, nous allons trouver 9 pages inédites de son journal de fouille pour l'année 1938, qui viennent donc s'ajouter aux 17 feuillets présents en photocopie au centre Golenichev. Les formats des feuillets perforés sont identiques et les dates sont complémentaires, donc ça ne fait aucun doute. Nous trouvons donc sur ces pages du journal de fouille de Jean-Louis Fougerousse les premiers relevés réalisés en plan et en coupe. Ils sont cotés en distance et en altitude, et nous trouvons également quelques croquis. Dans le même dossier, se trouvait une abondante correspondance relative à l'enquête menée par Fougerousse une fois rentré en France, afin de connaître la véritable destination de ces fours, dont ni la nature du ou des matériaux qui s'y rattachaient n'avait pu être déterminée précisément durant la campagne. Et pour cela, dès le mois de juin 1938, Jean-Louis Fougerousse avait envoyé des photos, des plans, des descriptions de ces fours à de nombreux experts en fonderie, de bronze, de verre, de céramique, etc., pour qu'ils tentent de lui apporter une réponse satisfaisante. Tous ces courriers, avec les certitudes et les doutes qu'ils véhiculent, ont été regroupés dans ce dossier, qui compte une vingtaine de lettres, dont certains échanges avec le célèbre chimiste du musée du Caire, Alfred Lucas, parfois, comme c'est le cas, au bon soin du non moins célèbre Alan Gardiner. Et parallèlement, Jean-Louis Fougerousse entretenait une correspondance régulière avec Pierre Montet pour l'informer de l'avancement de ses recherches et de la rédaction de l'article, qui devait figurer dans le tome 8 de la revue Chemie, dont la sortie était initialement prévue pour 1939 ou 1940. Cette correspondance entre Jean-Louis Fougerousse et Pierre Montet nous apprend que les analyses des spécialistes ont pris beaucoup plus de temps que prévu et que les avis étaient fort divergents de l'un à l'autre. Et cela se traduit tout particulièrement dans le plan qui devait former la planche 4 de l'article, dont un exemplaire avait été envoyé à Pierre Montet, c'est celui-ci, il est conservé au centre Golenichev, avec pour titre, vous voyez, une installation antique de fondeur de bronze. Donc croyez-moi sur parole, quand on est près du plan, on voit encore le mot bronze, mais ce mot bronze a été effacé. Un tirage de ce même plan annoté de la main de Jean-Louis Fougerousse a pu être retrouvé dans le dossier four, donc le voici en haut à gauche, mais cette fois-ci le mot bronze a été remplacé par le mot vert avant d'être raturé. Et l'article paraîtra finalement avec le titre « Un atelier de four à céramique à Tanis ». Mais sans la planche 4, qui est pourtant mentionné à deux reprises dans le texte. Et on apprend également qu'une cinquième planche était prévue, mais qu'elle non plus n'a pas été insérée dans l'article. Par ailleurs, la découverte de la nécropole royale en 1939 et surtout le début de la Seconde Guerre mondiale ont bouleversé totalement les priorités de la mission et ont contraint Pierre Montet et l'éditeur Goetner à faire paraître dès 1942 le tome 9 de Chemie, qui était consacré au premier inventaire des objets découverts dans la nécropole, alors que le tome 8 ne paraîtra qu'en 1946, 4 ans plus tard, en raison des vicissitudes de cette fameuse planche 4, qu'il a fallu retoucher à plusieurs reprises avant de finalement décider de ne pas l'inclure. Donc voici une petite énigme concernant la chronologie des publications résolue. La campagne de 1939 est également représentée par plusieurs documents inédits, dont les plus importants sont à nouveau 9 pages du journal de fouille de Jean-Louis Fougerous, relative à la découverte, bien sûr, de la nécropole royale. Nous avons quelques relevés extérieurs ou intérieurs du tombeau d'Osorcon II, par exemple, où nous trouvons encore quelques pages consacrées aux recherches d'enceintes, à la recherche d'enceintes près de la maison de la mission. Ces notes et croquis de terrain peuvent être complétés par l'agenda de Jean-Louis Fougerous, lui aussi nouvellement apparu, dans lequel il inscrivait brièvement les événements les plus marquants, ainsi que les visites reçues. Alors, si l'on regarde, par exemple, pour le 27 février, découverte des tombeaux, c'est la découverte de la nécropole royale, grosse émotion, gros travail en perspective. 17 mars, découverte du tombeau de Psousénès. Le 20, c'est la visite en pompe du roi Farouk. Hein, ou encore, au mois d'avril, les visites de messieurs Brunton et Lucas, les chimistes du musée du Caire. Alors, cet agenda est conservé pour toute la période de 1931 à 1939, à l'exception toutefois de l'année 1932. Il est très succinct pour les premières campagnes, mais il nous fournit des compléments importants, notamment aux lettres et aux journaux de fouilles de Pierre Montet, pour les années 1938 et 1939. 1939, qui sera la dernière campagne à laquelle participera Jean-Louis Fougerous, qui sera donc mobilisé dès le 27 août de cette même année au quartier général de l'aviation. Une importante correspondance, là aussi récemment retrouvée, évoque les multiples tentatives effectuées par Pierre Montet auprès de ses nombreuses relations, tant civiles que militaires, pour le faire démobiliser Jean-Louis Fougerous, ou au moins le faire mettre en sursis, afin qu'il puisse participer à la campagne de fouilles de 1940. Fougerous a alors 60 ans. Mais il ne sera libéré de ses obligations de capitaine aviateur que le 11 juillet 1940, c'est-à-dire 2 mois après le retour en France de la mission, qui venait d'ouvrir cette année-là les caveaux intacts de Psousénès et d'Aménémopée. Cet agenda nous apprend également qu'après la guerre, Pierre Montet lui proposera de revenir à Tanis pour la campagne de 1946. Mais sa situation financière, apparemment devenue précaire suite aux années de conflit, lui fera décliner cette offre au profit d'un poste de chef de section au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme à Laon, dans l'Aisne. Il cédera donc sa place d'architecte au sein de la mission Montet à Alexandre Lézine, après que les deux hommes se soient rencontrés au domicile parisien de Fougerous pour ce qu'on pourrait appeler la passation de pouvoir en octobre 1945. C'est consigné également dans l'agenda. Et durant la campagne de 1946, comme chacun le sait, Alexandre Lézine découvrira le caveau intact du général Undeba Undead. Mentionnons encore un dossier daté de 1944 qui nous apprend que Jean-Louis Fougerous préparait, à la demande de Pierre Montet, un quatrième article sur Tanis consacré au dépôt de fondation. Quelques pages dactylographiées nous en donnent le plan et l'introduction, complété par un frottis de l'un des dépôts de Ptolémée IV, trouvé en 1932 dans le temple de Mout. Et dans une des dernières lettres adressé par Pierre Montet à Jean-Louis Fougerous, il est question qu'ils étudient ensemble les dépôts de fondation de Tanis après le retour à Paris de l'architecte. Mais probablement pour les mêmes raisons qui l'empêcheront de revenir à Sannes après-guerre, cet article ne sera jamais achevé. Le dernier volet de cette importante documentation inédite concerne un aspect aujourd'hui méconnu de Jean-Louis Fougerous, du personnage de Jean-Louis Fougerous, qui est l'aquarelliste. Alors je précise aujourd'hui parce que durant la Belle Époque, celle qui a précédé le début de la Première Guerre mondiale, Fougerous était considéré comme l'un des meilleurs aquarellistes de sa génération. Il participait régulièrement aux grands salons parisiens et provinciaux. D'ailleurs, la presse ne tarissait pas d'éloges à son égard et plusieurs de ses toiles ont été acquises par l'État français durant cette époque. Par exemple, ces nuées d'automne sur la lagune de Torcello à Venise, qui sont aujourd'hui conservées et exposées au musée de la Révolution française à Visil, près de Grenoble. Et cette passion pour l'aquarelle ne l'a jamais quitté, et c'est tout naturellement qu'il s'y est adonné avec intensité durant ses séjours en Égypte. Pierre Montet précise dans une de ses lettres que chaque soir à Tanis, entre 6 et 7 heures, Jean-Louis Fougerousse, Georges Goyon et parfois Pierre Montet lui-même faisaient, je cite, « poser tantôt une binte, donc une jeune fille, tantôt un walad, un jeune garçon, pour ce qu'il appelle l'heure des croquis ». Mais Fougerousse n'attendait visiblement pas ce rendez-vous quotidien pour dessiner les ouvriers et ouvrières du chantier, comme en témoignent les imposants dossiers, carnets ou cahiers, littéralement couverts de croquis, généralement annotés pour la mise en couleur qui avait lieu plus tard. Très souvent, le nom de la personne représentée accompagne le dessin, comme ici un personnage pris au hasard qui s'appelle Mitwali. Donc, grâce à ces aquarelles, nous possédons des portraits d'une grande partie de l'équipe égyptienne, saisis sur le vif, dans une attitude de travail ou lors de moments de détente. Quelques vues plus générales illustrent également le travail sur le chantier, comme ici les travaux autour de la porte monumentale ou la première cour du temple d'Amon en 1932. Mais on sent bien que l'intérêt premier de Fougerousse était les personnages, leurs costumes et leurs postures. Deux dossiers, vous les avez vus sur la photo précédente, concernent les campagnes de 1931 et 1932, mais c'est durant celle de 1938 que l'architecte aquarelliste a été le plus productif, avec près de 300 dessins ou croquis aquarellés. Alors, je vous en montre quelques-uns pour profiter du talent de Jean-Louis Fougerousse. Ce sont de magnifiques œuvres d'art qui nous font revivre tous ces personnages, du cuisinier au chef des travaux, en passant par les porteuses d'eau ou de couffins, dans des attitudes qui nous semblent très familières. Voilà, il y en a comme ça près de 300. De nombreuses œuvres ne sont pas datées, mais il ne fait aucun doute qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des 9 campagnes auxquelles Jean-Louis Fougerousse a participé. Et quelques-unes ont figuré dans des expositions dès 1931. Et je terminerai avec cet autoportrait de Jean-Louis Fougerousse, en espérant que ces quelques extraits vous auront permis d'apprécier l'immense intérêt des archives actuellement conservées dans sa famille, tant sur le plan de la documentation archéologique et artistique que sur celui de l'histoire de la mission Montet. Elle constitue un ensemble de plus de 570 documents et je renouvelle vraiment au nom de toute l'équipe de l'actuelle mission française des fouilles de Tanis nos plus vifs remerciements à ses petits-enfants d'avoir permis qu'une copie numérique en soit réalisée et afin d'en assurer la pérennité dans le respect de la mémoire de Jean-Louis Fougerousse et en attendant la publication prochaine, je l'espère, d'une partie d'entre elles. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Patrice, pour cette très belle présentation de ce fonds Fougerousse, qui est extrêmement riche, aussi bien du point de vue archéologique qu'artistique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette conférence, sur l'un ou l'autre de ces aspects ?
Les photos de Psousenès dans son cercueil. Alors ça, ce sont des photos qui appartiennent à la mission Montet et qui ont dû être... on n'en a pas tant que ça, effectivement, des photos du cercueil. Il doit y en avoir deux pour, de mémoire, hein, de, pour les photos prises juste au moment de l'ouverture du caveau, il y en a 7. On a vraiment très très peu. Mais il faut savoir aussi que, qu'en 1939-1940, Pierre Montet avait énormément de problèmes avec son matériel photo. Il s'en plaint régulièrement dans les lettres qu'il adresse à son épouse. Ses appareils tombent en panne, il a du mal à se procurer des plaques, des négatifs. Donc il y en a effectivement très peu. Elles sont très semblables, elles ont été prises sous des angles très proches les unes des autres. Ah oui, donc celle avec où l'on voit la momie, entre guillemets, de Poussinet. Non, là, on n'en a vraiment que deux. Il n'y a que ces deux-là. Ouais.
Vincent.
Merci. Oui, merci pour votre présentation. Oui, j'ai trouvé que dans les aquarelles des ouvriers, ouvrières de Tanis, il y a un côté très corto-maltese.
Tout à fait, oui.
Je ne sais pas si vous l'avez ressenti.
Ah si, vraiment. Oui. C'est un précurseur.
Oui, et du coup, par association d'idées, ça me fait penser à le petite galerie, donc, qui est le quatrième, je crois, au Louvre, dans les trois salles d'exposition de l'aile Richelieu, là, qui est consacrée à l'archéologie et la bande dessinée, à la question des archives de fouilles, etc., qui pourrait faire un excellent contrepoint à votre présentation aujourd'hui, parce que précisément, c'est ça que ça illustre, c'est ouais. Le rapport qu'il y a entre le dessin, enfin indissociable du travail archéologique, le dessin, les croquis, et voilà, et du coup, ça résonne très bien avec ce que vous venez de nous présenter.
Oui, Olivier.
Juste une question ponctuelle. Vous avez évoqué le comte Duménil du Buisson. Est-ce que c'est le même ? Je suis intéressé parce que là, vous avez cité son prénom. Est-ce que c'est le comte Duménil du Buisson qui a signé, je crois que c'est dans les années 1920, un ouvrage sur les noms de vases et objets similaires en Égypte ?
Oui.
C'est lui ?
C'est lui. Bon, le comte, ces articles sont parfois mentionnés sous le nom de comte Duménil du Buisson. Rarement son prénom est mentionné, mais où on trouvait parfois aussi le comte lieutenant Duménil du Buisson. C'est le même.
J'ai eu l'occasion de connaître certains de ses descendants.
Il est décédé en 1986.
Oui, et il a laissé le souvenir d'un personnage assez fantasque. Je ne sais pas si vous avez eu le même écho, mais un personnage digne d'un roman.
C'est vrai.
En tout cas, c'est ce que ne laissait pas paraître son ouvrage sur les noms de vases et objets similaires.
J'avais une question aussi sur la photo aérienne. Est-ce que Fougerous a continué ses activités de photo aérienne?
Oui, alors ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais effectivement, il y a eu des tentatives de photo aérienne réalisées à Tanis par le biais d'un cerf-volant. Parce qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, les photos aériennes étaient prises soit à partir de biplans, soit à partir de cerfs-volants. Et nous avons quelques photos au centre Golenichev, dans les archives de la mission Montet, qui ont été prises par cerf-volant. On voit également la confection du cerf-volant. Ça n'était pas daté précisément. Il y a une petite annotation également de Pierre Montet qui dit qu'on pendait au bout de ce cerf-volant un appareil sans grande valeur. On allumait une mèche Big Ford, c'est-à-dire une mèche à dynamite, qui mettait 5 minutes à brûler, et puis quand la mèche avait brûlé, le déclencheur se mettait en route, la photo était faite. Et on en a 4 ou 5 comme ça, pas beaucoup plus, et on n'avait pas la date précise. Eh bien, grâce à l'agenda de Jean-Louis Fougerous, nous savons que c'est en 1933. Là, c'est mentionné, donc ça précise également des photos ou des documents que l'on a dans les archives de la mission Montet.
Il y a aussi un ou deux croquis dans les notes dont on a seulement des photocopies au sein de Golenichev, on a un ou deux croquis montrant le cerf-volant, comment ça fonctionnait. Je pense qu'il a dû expliquer à Pierre Montet comment faire le truc.
Dans le cahier de 1932, et donc ils ont réalisé ça en 1933.
Alors il faudrait retrouver l'original pour...
Donc on lance un appel, si vous voyez passer des journaux de fouilles originaux de Jean-Louis Fougerous, faites-nous signe.
Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, il me reste encore à te remercier pour cette belle intervention.
Merci.